Le CIMI, du 9 au 11 décembre 2025, à Paris Expo, Porte de Versailles, en partenariat avec Salvia Développement, Solare IT, Procivis, Inly, Axéo et IDPRO sur Radio Imo et Radio Territoria.
Bonjour, bienvenue sur Radio Imo en direct du CIMI 2025, l'édition, la première édition à la porte de Versailles. On est ravis de vous faire vivre cet événement pendant trois jours intenses. Vous pouvez retrouver toutes nos interviews, nos tables rondes sur notre site internet et puis sur les agrégateurs de podcasts Deezer, Spotify, Apple Podcasts. On parle tout de suite des data centers, on en entend beaucoup parler comme des monstres énergivores, mais en même temps, ils sont au cœur de tout ce dont on parle ici au CIMI. IA, cloud, streaming, souveraineté numérique, services publics dématérialisés. Alors, il faut savoir qu'entre 2023 et 2025, le nombre de data centers dans le monde est passé d'environ 8 000 à 10 000. Le marché pèse autour de 400 milliards de dollars et la demande continue de croître de l'ordre de 20% par remporté par l'explosion des usages numériques et de l'IA. Pour en discuter, j'accueille tout de suite Delphine Michaels. Bonjour.
Bonjour, Elodie.
Elodie Michaels. Eh bien, je ne sais pas pourquoi j'avais Delphine, vous voyez.
C'est pas grave.
Vous êtes directrice du développement Data Center Europe chez GSE. Alors, GSE, c'est un contractant général spécialisé dans le design et le build. Vous pouvez nous présenter votre activité, nous dire ce que vous faites, et puis vous, en tant que directrice du développement de ces data centers.
Bien sûr. Alors GSE, c'est une société d'un milliard, c'est une société française qui est sous la coupe d'une société allemande, Goldbeck, une société de 7 milliards. Aujourd'hui, nous construisons des data centers, des entrepôts et de l'industrie, avec aujourd'hui une petite dizaine de data centers qui ont été construits en France, en Espagne, dans les 5 dernières années.
Alors, ensemble, on va essayer de comprendre trois choses. Alors, comprendre d'où vient la croissance des data centers, même si je l'ai brièvement évoqué, regarder leurs vrais ordres de grandeur, ainsi que leurs ordres de grandeur en électricité et en eau, et poser leur rôle économique pour la France, parce que c'est important d'en parler. Pour commencer, si on devait prendre une photo globale en 2025, la fin 2025, comment vous qualifiez la croissance des data centers en Europe et en France? On est sur quelle dynamique en termes de sites, de puissance installée, de taille des projets?
Alors aujourd'hui, on va commencer par la France. On a 320 data centers. Donc on devrait en avoir en règle générale à peu près 3 par département. On a une énorme concentration sur la région parisienne.
D'accord.
Et le sud.
D'accord. Donc il y a des zones vraiment spécifiques.
Tout à fait. Et ces zones sont justifiées puisqu'on a des arrivées de câbles, les câbles sous-marins, et ils ont dicté en fait la connexion avec ces data centers. Donc aujourd'hui, on a deux grands centres, le sud et la région parisienne. On en a un troisième qui est en train de sortir avec la région de Lyon, où on commence à avoir une demande assez importante, et une petite région qui est en train de sortir aussi, la région du nord-est, donc vers Strasbourg.
Et alors, pour les auditeurs qui débutent en la matière, les câbles sous-marins, c'est quoi exactement? Donc, c'est des câbles qui sont sous l'eau, hein, qui arrivent par l'océan ou par la mer, c'est ça?
Tout à fait.
Et qu'est-ce qui viennent, ils viennent relier quoi exactement?
Ils viennent relier les continents.
D'accord.
Tout simplement. Donc, on a des câbles qui nous arrivent de l'Amérique, des câbles qui arrivent sur Paris, qui arrivent à Bordeaux, qui arrivent à Marseille, et qui repartent en Afrique et vers d'autres pays. Donc on parle vraiment d'une liaison sous-marine, d'une sorte d'autoroute qui rejoint les continents entre eux. Maintenant, ces continents se rejoignent bien sûr par le sol, mais aussi par un autre espace qu'on ne voit pas, qui sont les satellites. Ouais. Voilà. Donc on a sous l'eau, on a dans l'air, et sur Terre, nous avons les data centers. Donc l'autoroute visuelle que nous voyons, où les échanges, le stockage se fait.
Mmh. Alors, dans ce que vous voyez chez GSE, quels sont aujourd'hui les grands profils de projets ? Parce que c'est vrai que, bon, on a du mal à s'imaginer chaque data center. C'est quoi ? C'est des data centers de colocation, des sites hyperscale ? C'est quoi ? C'est pour, par exemple, les grands acteurs du cloud, hein, toute cette data qu'on va stocker. C'est des data centers plus petits pour des industriels, des collectivités. Voilà, c'est quoi qu'est-ce que vous voyez ? C'est quoi les typologies ?
Alors, il y a plusieurs typologies. On va parler d'une typologie, aux États-Unis, on appelle ça enterprise. Ce sont des data centers qui sont construits pour certaines industries, pour leur propre usage. Par exemple, la BNP, ils ont des data centers qu'ils utilisent. Qu'ils managent eux-mêmes.
C'est quoi ? C'est pour avoir. C'est pour des questions de sécurité ?
C'est pour des questions de souveraineté et de sécurité. Ouais. Donc on le voit beaucoup dans les banques. On retrouve un peu ce même système, cette même logique. On l'a aux États-Unis, hein, Wall Street. Ouais. Ils ont leurs propres data centers qui leur sont dédiés. On retrouve ça aussi au niveau de la recherche et de la défense. Naval Group, Thales, tous les gens qui sont dans la défense, tous les gens qui sont. Dans les banques, on va dire dans les milieux très très critiques.
Bien sûr, voilà. C'est préférable, ça s'en prend.
Là, on retrouve donc des data centers qui sont utilisés et opérés par l'acteur à qui le data center appartient. Ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, c'est.
Donc là, juste la taille varie, j'imagine, en fonction de l'entreprise, en fonction du
rôle. Varie énormément. On parle de moins de 1 mégawatt. Jusqu'à à peu près une petite vingtaine de mégawatts. Voilà. D'accord. Ils ne sont pas énormes. Après, on parle de colocataires, de colocation. Donc, ces data centers aujourd'hui appartiennent, on va dire, aux grands. C'est qui les grands ? C'est Equinix, c'est Digital Realty, c'est Vantage, c'est CyrusOne. Ces marques créent des fois des campus. Des fois juste un grand bâtiment.
Donc des campus de data center,
plein de bâtiments. Des campus de building, exactement, dans lesquels ils mettent à disposition des salles blanches, des salles qui peuvent être louées
pour
leur utilisation.
Ah, donc c'est de la location.
C'est comme un hôtel, en fait. Ouais. Ils rentrent, ils veulent une salle de 600 kW, d'un mégawatt, de 3 mégawatts, et ils aménagent la salle pour leur utilisation. Donc la salle et les objets qui sont à l'intérieur appartiennent au client final, donc par exemple à un Microsoft, un Google, mais aussi une banque. Hein,
c'est une location nue en fait.
Voilà. Et donc le building reste et appartient
au
propriétaire. Donc ça, ce sont des colocations. Et aujourd'hui, ces colocations, on va dire que dans le temps, alors on va retourner jusqu'aux 10 ans, ces colocations, c'était du 2 mégawatts, c'était peut-être du 10 mégawatts. Aujourd'hui, on est dans les 30, entre 30 et 50. Donc, on a quand même beaucoup augmenté en taille. Ce ne sont plus du tout des petits data centers. On parle quand même de beaux bébés qui coûtent très cher. Et donc, ces colocations, ces salles sont louées. Donc, ce modèle, on le voit partout. Partout, on le voit aux États-Unis, on le voit en Europe. C'est vraiment le modèle le plus connu.
En fait. Oui,
complètement. Et donc, il y a une compétition entre les gens à qui appartiennent ces data centers. Ils louent les salles et donc il y a un prix par mégawatt qui se vend.
Il y a combien de gros acteurs ? C'est quoi les leaders ? Il y a combien de leaders sur ce marché-là ?
Alors, leader, faire attention, le leader en tant que site, celui qui a le plus de sites, c'est Digital Realty.
D'accord.
C'est
un Américain.
C'est un Américain qui a racheté une société française qui s'appelait Interxion. Donc là, on a vraiment le plus de sites dans le monde. Après, on a un acteur qui est aussi le plus grand, mais lui, il est plus grand en taille. C'est Equinix. Et après, on descend nettement en dessous, mais il y a quand même NTT. Mais on remarque quand même une grande tendance. Ils sont pratiquement tous américains.
Oui, donc c'est vraiment tiré par les États-Unis, en fait.
C'est tiré par les États-Unis, voilà. Après, on a le dernier, vous avez parlé d'hyperscale. Alors, le concept d'hyperscale, c'est quelqu'un qui prend des grandes salles. Ça ne l'intéresse pas, 800 kW. Lui, il va prendre 6 MW, 3 MW. Il va prendre des salles entières, des étages entiers et même des fois des buildings entiers. Ça, c'est un hyperscale. Et les hyperscalers, ce sont très souvent les GAFAM.
Ouais.
Et les GAFAM, juste pour information, c'est un acronyme des plus grands acteurs américains. Que ça passe du Google, de l'Apple, Donc c'est en fait la première lettre de chacun de leur société.
Oui, c'est Google.
C'est Google, Apple. Facebook, il m'en manque Amazon, ouais. Microsoft.
D'ailleurs, ça devrait s'appeler Gamma maintenant, parce que Facebook,
oui, c'est
Meta.
C'est vrai. Hein. Oui, mais ils n'ont pas changé.
Ils n'ont pas changé. Et Nvidia aussi. On peut le rajouter.
Oui.
On pourrait. Et donc alors, on a parlé donc de ces types de projets. Là, j'aimerais qu'on parle de sujets qui font quand même qui font couler beaucoup d'encre, on va dire, dans les médias. C'est des sujets très grand public. C'est la consommation électrique et la consommation en eau. Il y a pas mal d'idées reçues. Il y a pas mal, on en discutait en antenne. Il y a pas mal de fake information ou d'informations un peu obsolètes. Alors déjà concernant l'électricité, on entend beaucoup les data centers vont manger tout le réseau électrique. Factuellement, en France, je crois qu'on parle d'environ 2% de la consommation nationale d'électricité, avec une concentration, on l'a dit, sur quelques départements et un mix très largement décarboné. Est-ce que vous me le confirmez ?
Tout à fait. La France a une situation unique où aujourd'hui, elle a la chance d'être le seul pays de l'Europe qui peut vraiment exporter. On est en surproduction en France.
De data center ?
Non, d'électricité.
Ah, d'électricité, pardon.
D'électricité. Ouais. Donc on a une surproduction, ouais. On exporte. Ouais. Et la question est la suivante. Est-ce qu'on veut exporter à d'autres pays pour qu'eux puissent faire les data centers ?
Ou est-ce qu'on veut en faire nous ?
Ou est-ce qu'on veut les faire nous-mêmes ? Ouais. Donc la question ne se pose pas sur l'électricité. Ça, c'est pas du tout un problème. La deuxième question que vous aviez, c'est cette consommation, elle est énorme. Alors, le plus gros mangeur d'électricité, ce sont ceux qui font de l'énergie, quand même. Faut regarder. Et les data centers, c'est 2% de cette consommation générale. Aujourd'hui, la consommation dans les data centers, on est rentré dans le deuxième cycle de vie. Donc, les data centers, ça existe depuis...
Depuis combien de temps ?
Alors, je crois que le premier, il a été créé, je l'ai lu il n'y a pas très très longtemps... il a été créé à Washington, ouais. Pour la CIA.
Ah oui.
Donc c'était un petit data center. J'ai plus la date en tête, mais il me semble que c'était 1940, quelque chose comme ça. Il faudrait que je regarde.
Bon, c'était pas les mêmes data centers.
C'était pas du tout les mêmes data centers.
C'est pas pareil, mais c'était le concept était.
Voilà, ils étaient énormes. Ils construisaient. La consommation n'était pas la chose la plus importante. Aujourd'hui, on a quand même des gens qui se veulent verts. Qui veulent avoir un produit qui ne soit pas néfaste à l'environnement. Et les technologies permettent d'avoir des data centers qui sont quand même nettement plus efficaces. Donc on ne parle pas du tout du même produit en 2025 que celui qu'on a construit il y a 20 ans.
Bien sûr.
Il a nettement évolué.
Oui.
Donc la consommation, il est toujours énergivore. Alors pourquoi il est énergivore ? Parce que en fait, notre consommation augmente. On peut être plus efficace, mais vu que la consommation... De vous à moi. Hein. Enfin, moi, je dois avoir au moins 9 apps qui tournent actuellement sur mon téléphone. Donc, je consomme. Même si je ne le réalise pas, je consomme.
Vous stockez des photos sur votre iPhone.
Mais je fais tout dessus.
Ouais, ouais.
Et moi, j'ai 59 ans. Mais j'imagine un petit jeune qui va le faire. Ça doit être 3 fois ce que je fais. Mais aujourd'hui, on fait des recherches sur téléphone. Quand on s'ennuie, on regarde son téléphone. Quand on écoute de la musique, on est sur son téléphone.
On lit sur le téléphone.
Ouais. On regarde la télé sur le téléphone. On parle. Moi, ma mère a 82 ans. Elle ne veut faire que du FaceTime maintenant. J'utilise de la bande passante.
Ouais.
Non, mais enfin, on continue.
Et la population mondiale grandit.
Elle augmente. Mais comme je disais tout à l'heure, on était 1 million en 2005. On est 5,5 milliards d'internautes aujourd'hui. C'est énorme. La population, elle est quoi, de 8 millions, un peu plus de 8 milliards.
8 milliards, ouais.
Donc aujourd'hui, on a explosé. Je crois qu'il n'y a que 2 pays qui sont en arrière. C'est la Corée du Nord et le Burundi. Bon, on ne veut pas tellement s'aligner avec eux. Mais la tendance est en croissance. On va utiliser de plus en plus. Donc, je veux dire, on va augmenter notre consommation.
Et on est tous responsables.
Ouais. Donc il faut arrêter de jeter la pierre.
Ouais, ouais. Ouais.
Aujourd'hui, la consommation va augmenter. Et avec l'IA, donc aujourd'hui on rentre dans une autre ère où on veut que tout soit calculé c'est plus les petites machines à calculer réversibles, là Hewlett-Packard. Aujourd'hui on envoie tout dans l'air et on veut une réponse. Eh bien ça coûte Ça coûte des mégawatts, ça coûte des kilowatts, ça coûte de l'activité dans les data centers. Et ChatGPT, il faut bien qu'on l'alimente, mais ce n'est pas la seule. Hein. Il y en a quand même énormément aujourd'hui qui reposent sur des modèles de calcul.
Voilà. Ouais, ben oui, parce que l'IA est incorporée dans différentes applications. On a l'impression qu'on met de l'IA partout, de toute façon.
Mais oui.
Et tout ça, ça consomme énormément. Autre sujet sensible, l'eau. Bah d'ailleurs, justement, j'ai vu il y a quelques semaines dans la presse que ChatGPT l'utilisait, quelques heures, consommer plusieurs litres ou centaines de litres d'eau. Il y a pas mal d'idées reçues sur ce sujet. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu ?
Bien sûr. Alors, je pense que les idées reçues sont sur les premiers data centers. On va commencer par ça. Les premiers data centers, pour le refroidissement, on utilisait un système qui s'appelle adiabatique. Et donc, ce sont des grosses tours réfrigérantes où on mettait de l'eau pour évaporer la chaleur.
Donc, on perdait l'eau parce qu'elle était jetée, puis évaporée dans l'atmosphère et on la perdait.
Voilà.
Donc, ça consommait énormément.
Aujourd'hui, ce n'est pas du tout ce qu'on fait. On évite ces systèmes le plus possible. Alors, il y a des cas extrêmes où, dans le désert où il fait très 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 chaud, ou des endroits vraiment où il y a des grosses où les pointes de chaleur, où on est obligé de rajouter un petit peu ce froid. Mais aujourd'hui, ce qu'on fait et ce qu'on préfère, c'est un système en boucle fermé où on envoie de l'eau qui est refroidie avec ce qu'on appelle des gros chillers, hein, des gros systèmes CVC. On envoie le froid pour enlever la chaleur qui s'est accumulée dans les serveurs, dans ces CPU. Et dans un circuit fermé, cette eau qui a été un peu réchauffée, mais attention, on ne fait pas cuire un œuf dedans, elle est tiède, on la renvoie dans le système de refroidissement, on la refroidit et on la réinjecte. Donc on parle vraiment aujourd'hui de boucle fermée.
Et, donc on ne perd pas l'eau. L'eau, en fait, c'est un circuit. Alors, elle se...
On la vide pas, ni dans l'océan, ni quoi que ce soit. C'est une boucle fermée. Ouais. Maintenant, il y a toujours un peu d'évaporation, bien sûr. Ouais.
Donc il y a un peu de perte.
Il y a un peu de perte et il y a de l'eau qui est rajoutée au fur et à mesure. Aujourd'hui, les nouveaux systèmes essayent d'utiliser ces systèmes en boucle fermée le plus possible. Maintenant, il y a toujours une déperdition, c'est vrai. C'est vrai qu'on remplit les systèmes d'eau au début. Alors peut-être qu'on met une piscine, hein, ouais. Je n'ai jamais calculé. Mais on ne va pas vider régulièrement une piscine olympique. Non, ce n'est pas du tout le but.
C'est de l'eau qui est stockée, en fait. On prend de l'eau, on la stocke, qui va tourner, qui va se refroidir,
tout
se réchauffer indéfiniment.
Alors, oui.
Après, il faut en rajouter, parce qu'il y a un peu d'évaporation, mais en tout cas, c'est limité. Donc, c'est une fausse idée. C'est une idée reçue de dire que...
Non, c'est pas une fausse idée. C'est une idée qui se base sur un design, on va dire...
Ancestral, obsolète.
Voilà, qui n'est plus désirable.
Est-ce qu'on attend d'autres innovations, justement ? Parce que c'est vrai qu'il y a sans arrêt des innovations, des start-up qui essayent de verdir plein de choses, plein de marchés. Est-ce qu'on attend des innovations de ce côté-là ? Est-ce que vous en voyez ? J'imagine que vous faites des veilles, que vous regardez ce qui se fait.
Tout à fait. Alors, le monde digital, c'est justement un monde plein de start-up. C'est merveilleux hein, pour la France, pour tout le monde. Hein. Ça donne envie de participer à cette évolution. Le but est bien sûr de rendre ces data centers plus efficaces, de les rendre le plus petit possible, le plus vert possible, les plus rapides possible, et de les construire bien sûr le plus rapidement possible. Donc aujourd'hui, il y a plein d'innovations sur la technologie même du serveur. Hein. Aujourd'hui, on entend sans en parler d'une CPU qui peut faire ça, et demain qui pourra faire ça, et qui pourra faire encore plus. Donc on a une densification, on va dire, de ces serveurs, de ces données, et ces centres de data centers, vont avoir de plus en plus de données, on va dire, densifiées dans leur serveur.
Ils vont se développer. Alors justement, cette croissance des data centers impacte un rôle économique, en tout cas, et territorial. Est-ce qu'on peut parler des investissements, de cet impact sur le PIB ? On parle de plus de 100 milliards d'euros de projets de data centers annoncés en France dans les prochaines années, avec une montée en puissance, on l'a dit, de l'IA et de la souveraineté numérique, ça va exploser. Concrètement, qu'est-ce que ça apporte à l'économie française ? Quels sont ces apports ?
Alors, avant de rentrer dans ça, moi je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut vraiment qu'on regarde de très près. C'est pas qu'est-ce que ça va nous apporter, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça nous apporte. Parce qu'aujourd'hui, il y a un petit blocage. On n'arrive pas à sortir les data centers aussi rapidement que nous compèrent les Chinois ou les Américains.
Et pourquoi on est à la ramasse comme ça en France, alors ?
Eh bien, on n'est pas assez agressif.
Ah oui.
On n'est pas assez agressif. Et moi, en tant que franco-américaine, hein, j'ai passé la plupart de ma vie aux États-Unis, je suis toujours étonnée du système un peu collégial où il faut que tout le monde soit d'accord pour faire quelque chose.
Bienvenue en France.
C'est pas comme ça qu'on arrive à avancer vite. Aujourd'hui, on a besoin vraiment de prendre cette opportunité. On a de l'électricité, on a du câble, on a des gens intelligents en France qui sont capables de le faire. Et en fait, si on n'a pas un mouvement gouvernemental qui permet tout simplement d'effacer certains de ces barrages qui nous empêchent de monter plus vite, eh bien, on va rater le coche.
Donc, il faut y aller, en fait. Il faut arrêter de réglementer, il faut arrêter les couches administratives. Il faut y aller, il faut foncer. Il faut prendre des décisions vite et il faut y aller.
Sinon, ces data centers, ils vont quand même se construire. Parce que quand même, le besoin, il est, mais ils seront ailleurs.
Ah ouais.
Donc, on n'aura plus ni les technologies, ni les startups autour, ni ces salaires un peu beaucoup meilleurs, on va dire, et ni cet enthousiasme vers une nouvelle industrie.
Alors justement, vous parlez des salaires. C'est vrai que les data centers créent de l'emploi. Est-ce que vous pouvez nous parler des métiers liés peut-être à l'exploitation des data centers? Parce que hors antenne, vous me disiez que la grille des salaires était hyper élevée. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces métiers et nous dire combien gagnent ces techniciens sur les data centers?
Bien sûr. Alors dans un data center, les premiers métiers, on va dire, ce sont les métiers de techniciens, donc les techniciens de quart. Le mot en français m'est revenu. Donc des techniciens qui travaillent en quart, alors soit en 3-8, soit en 2-12, et qui se relèvent. Donc il y a une redondance hein, sans arrêt et un renouvellement de ces équipes. Et ces techniciens rentrent avec des BTS, des BTS ELEC, des BTS CVC. Certains sont plombiers, ils ont réussi à monter un petit peu les marches, mais en gros, un technicien dans un data center va arriver à avoir un salaire de base d'à peu près 50 000 euros.
Donc 50 000 euros, c'est le salaire basique?
Ah, c'est le salaire de base. C'est-à-dire que ce technicien qui rentre avec un salaire de base va en plus de ça toucher des primes. Des primes de quoi? Parce qu'il travaille le week-end, il est en quart, donc il va tourner, donc il va travailler des samedis, des dimanches. Et pour ça, il va être rémunéré un peu plus.
Il va avoir des primes le dimanche, il a des primes.
Celui qui travaille la nuit, il a des primes aussi. Donc, en fait,
et donc ça tourne, hein, les équipes tournent.
Les équipes tournent.
Il faut accepter ça en revanche, d'avoir des horaires qui ne sont pas fixes.
Tout à fait, tout à fait. Et donc le bénéfice, c'est que à la fin de l'année, on a des électriciens. Je ne parle pas d'ingénieurs électriques là. Je parle vraiment de BTS, de BP, des électriciens, des plombiers, des CVC qui arrivent à gagner jusqu'à 70 000 euros par an. C'est pas des petits salaires.
Non, c'est pas des petits salaires. Ça donne envie.
Ça donne envie. Et en plus de ça, c'est technique, ça lève tout le monde. Ouais. Donc ces gens vivent bien sûr autour des data centers. Donc ils amènent des meilleurs salaires, ils amènent des familles.
Ouais.
Une éducation bien sûr continue parce que ces techniciens se voient sont obligés de faire des formations régulières. Parce qu'ils travaillent quand même avec des courants forts qui sont dangereux.
Donc c'est hyper stimulant, c'est hyper
très stimulant. Intellectuellement, je veux dire, celui qui veut vraiment monter, il peut monter. Donc ça, c'est le côté, on va dire, maintenance opérationnelle de tous les jours. Après, il y a l'ingénieur. L'ingénieur qui, lui, va redessiner, redéfinir, augmenter, faire des rétrofits. Lui, il va amener des nouvelles machines. C'est pareil, c'est basé aussi sur la technologie, sur l'évolution qui va arriver demain. Donc on a des ingénieurs sur place et on a des cybertechniciens parce que bien sûr le data center, personne ne doit pouvoir rentrer dedans. Donc on a tout un côté cybernet qui s'installe à l'intérieur.
Aussi, j'imagine que ça bouge très vite.
Ça bouge énormément.
Ouais.
Et là, je ne parle même pas de tous les gens qui rentrent et qui sortent dans un data center de façon journalière pour faire des changements, pour faire de la maintenance, pour changer des câbles, pour mettre de nouveaux serveurs. On a une petite, sur un petit data center, hein, on va dire un data center de 5 mégawatts, même de 6 mégawatts, On a une petite trentaine de personnes qui rentrent et qui sortent par semaine. C'est en plus des employés, en plus de ceux qui sont en post-office. Donc, dire que le data center ne crée pas d'emplois, et là, je vous passe même la partie où on a construit, parce que construire un data center, c'est 200 personnes plus. Hein, plus là, nous, on est un site avec un grand acteur dans le sud où on va avoir des pics de 500 personnes.
Donc on
par jour. Oui. Donc vous voyez, c'est un 22 mégawatts. Donc on est vraiment dans
la création d'emplois dans les territoires.
Voilà. Et puis enfin
autour des data centers.
Voilà. Et puis ça permet aux jeunes de voyager, voir d'autres choses. Après ils veulent peut-être s'implanter dans les villes. Non, c'est vraiment créatif. Ça ouvre un peu l'esprit.
Et puis avec des bons salaires. Faut quand même le préciser salaires. Parce que ça joue. Pour conclure, GSE donc a créé une business unit dédiée aux data centers en 2024. Puis a racheté Critical Building en 2025 pour renforcer son expertise européenne. Votre promesse c'est quoi? Rapidement.
Notre promesse, c'est d'être le constructeur de data center le plus rapide et le plus effectif.
Tout simplement, voilà. Au moins, c'est clair. Merci infiniment. Merci pour cette interview passionnante sur les data centers. C'est vrai que au CIMI, on en parle aussi. Voilà, CIMI 2025. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans quelques instants pour cette dernière demi-journée en direct du CIMI 2025 à la porte de Versailles. À tout de suite.
Le CIMI, du 9 au 11 décembre 2025, à Paris Expo, Porte de Versailles, en partenariat avec Salvia Développement, Solare IT, Procivis, Inly, Axéo et IDPRO sur Radio Imo et Radio Territoria.